La suite de la première méditation sur la primauté de la vie intérieure, de ce que nous avons parlé, de cette opposition avec la vie extérieure, sans que cela signifie du tout qu'il faille renoncer à l'activité extérieure, nous allons le développer dans la méditation. On nous dit tout de suite, elle doit déborder la vie intérieure vers l'extérieur. Parce que nous sommes des chrétiens courants, vivantes au milieu du monde, et nous vivons notre foi là où nous sommes. Et nous ne nous en cachons pas. Donc c'est l'ensemble de ma vie qui est touché par ma vie intérieure. Je vais avec ma vie intérieure là où je me rends, où que je me rende. Et là, c'est l'ensemble de mon activité, où qu'elle se déploie, qui doit être un débordement de la vie intérieure. Autrement dit, tout doit être informé de ce double précepte de la loi, ancienne comme nouvelle, aimer Dieu, aimer son prochain. Et cet amour s'exprime par la pratique des vertus, de la charité, de la serviabilité, la joie, l'optimisme. En faisant ce que tout le monde fait, mais c'est ce que nous, et nous le renouvelons maintenant, nous voulons l'accomplir, toujours animé de l'Esprit du Christ. C'est ça qui fait la différence. Voyez comme il s'aimait, voyez comme il s'aime, disaient les premières communautés chrétiennes. Le signe distinctif pour nous, ce sera toujours ça. Et à titre de disciples que nous sommes, parce que le Seigneur nous a intimés, n'est-ce pas, le mandat. Allez de toutes les nations, baptisez-les, enseignez-les, apprenez-leur tout ce que je vous ai appris. Un mandat qui nous concerne tous. Ce qui vous habite, transmettez-le. Et Saint Joseph, dans tout cela, pourrait demander quelqu'un. Eh bien, nous n'avons aucune donnée concrète, ni dans la Sainte Écriture, ni dans la tradition. Il y a quelques allusions chez des pères de l'Église, dès le début, c'est vrai, plus nombreuses plus tard, sous la plume des saints et des écrivains ecclésiastiques. Mais étant donné qu'il n'y a pas de données précises, nous avons la possibilité et le droit de faire quelques hypothèses. Une idée très importante, à mon avis, s'impose là, qu'on doit appliquer, je pense, souvent dans la vie de Saint Joseph, pour découvrir beaucoup de choses. C'est que nous savons qu'il y a, que nous le voulions ou pas, il y a une certaine unité. Lorsqu'on s'approche du Seigneur, l'unité est de plus en plus grande. C'est une qualité, l'unité, le manque de division. Et plus on avance dans la vie intérieure, plus l'unité se fait grande, solide. Et quelqu'un qui a une vie intérieure puissante comme Saint Joseph, le patron, le modèle de vie intérieure, il a cette logique rigoureuse, cette union, cette unité dans la vie spirituelle, dans tous les aspects de sa vie même, professionnelle aussi, ça s'applique au travail. Il y a une logique qui imprègne tout l'être, la vie intérieure qui se communique à toute l'action interne, externe. Et lorsque on rentre dans cette logique divine, on se rend compte qu'elle n'est pas évidente et qu'elle n'est pas évidente à exprimer dans notre logique humaine, c'est-à-dire selon notre manière naturelle et habituelle de raisonner. Et c'est pourquoi on parle d'ailleurs de la vision surnaturelle, de la vie surnaturelle, de la vision de la foi. C'est pourquoi on dit que le juste vit de la foi. On met ça ensemble, on dit oui, la cohérence dans la vie de Joseph. Joseph, tout ce qu'il fait, il le fait selon cette cohérence, selon cette richesse intérieure qui se manifeste. Les auteurs diront, et Saint Paul dira, la bonne odeur du Christ, la bonne odeur lorsqu'on est rempli de la vie divine, lorsqu'on imite le Christ, même avant l'heure, comme Joseph. eh bien, on rayonne, on dégage quelque chose, et ce quelque chose se dégage même lorsqu'on ne veut rien dégager. Joseph, nous le savons, est un juif pieux, zélé, un citoyen exemplaire, parce qu'il l'accomplit, il respecte la loi, il va faire le recensement, puis il va... Bon, bref, on le sait, les petites choses qu'on laissait, on le sait bien. Et il menait donc une vie tout à fait ordinaire, dans les lieux où Dieu l'a conduit, l'a placé, Nazareth, où il avait sa maison et son atelier, Bethléem, de façon provisoire, en Égypte ensuite, retour et retour, Nazareth de nouveau. Une vie ordinaire, une vie de travail surtout, mais aussi pour le sujet qui nous occupe, une vie sociale aussi, de rapport, de relation avec les autres. Il est dans une bourgade pas trop grande, tout le monde se connaît, ils vivent ensemble, enfin ils sont ensemble très souvent. Et Joseph n'est pas un de ces anachorètes qui se retirait dans la solitude du Qumran. Je vous lis quelques lignes de Saint José Maria qui a contemplé la vie de Joseph, qui a supplié Joseph de l'inspirer. Quand le Christ passe, paragraphe 40. Joseph était en effet un homme ordinaire auquel Dieu fit confiance pour accomplir de grandes choses. Il sut vivre comme le Seigneur le lui demandait tous les événements qui composèrent sa vie. Et c'est pourquoi la Sainte Écriture loue Joseph en disant qu'il était juste. Pour un hébreu, juste veut dire pieux, serviteur irréprochable de Dieu, fidèle à la volonté divine. D'autres fois, juste veut dire bon et charitable envers le prochain. En un mot, le juste est celui qui aime Dieu et démontre cet amour en accomplissant ses commandements au service de ses frères, les hommes. C'est d'une clarté et d'une simplicité. C'est transparent. Ça nous inspire pour dire Joseph aime les gens, les clients, les voisins de cette bourgade petite. La première personne à être connue, c'est Joseph. Nous retenons pour notre sujet son amour du prochain, donc l'intérêt avec lequel il suivait les affaires des autres. Et on sait qu'on imagine un artisan dans un petit village, il savait tout faire, quoi. Il dépannait pour je sais pas quoi, pour une porte, pour une chaise, pour une table. Il était l'ami de tout le monde. Il faisait bien, il travaillait bien. Cette vie intérieure qui s'applique à tout. On se rend compte qu'on peut déduire très bien que il était l'ami de ses amis, de ses voisins, de ses cousins. Un argument qui me semble très beau, c'est de ce qu'on a dit un petit peu dans la première méditation, et de ce qu'on peut creuser dans la vie de Saint Joseph, c'est que Jésus ressemble dans bien des domaines, sur bien des points, dans les familles, pas j'appartiens à une famille nombreuse. Et c'est vrai, parce que de temps en temps, je rappelle les parents, comme ça, de regarder les pouces. Les 9 enfants, on comparait nos pouces de la main droite, 9 pouces. Et on voyait, ah, ça c'est le pouce de papa. Ah, ça c'est le pouce de maman. Ah, mais incroyable. Incroyable. Le pouce de papa, à côté, c'est ça. Le pouce de maman pour certains autres. Dans le domaine biologique, c'est pas le cas de Jésus. Il ne ressemble qu'à Marie. L'humanité, il l'attire de sa mère seulement. L'Esprit Saint n'a pas laissé de traces biologiques. Mais du point de vue mœurs, coutumes, l'accent. L'accent, là où Galilée, oui, Galilée. Tu parles comme ton père, bien sûr. C'est lui qui m'a appris. C'est lui, j'ai parlé avec lui, c'est bien. Au point qu'on peut dire que des choses que le Christ montre, voit, l'attitude qu'il a à l'égard dans la vie publique, ce sont des choses pour beaucoup qu'on peut, on va pas le faire maintenant, mais on peut voir la filiation justement la filiation à l'égard de Joseph. Et là, on peut s'amuser, faites-le, retenez-le, et j'avance dans mes notes. Mais le dicton « tel père, tel fils », c'est très amusant d'inverser. Tel fils, tel père. Et je crois que dans le cas de Jésus et de Joseph, c'est la seconde version qui est la plus intéressante. Tel fils, tel père. Je connais Joseph en voyant Jésus agir, faire des choses, faire des gestes. Bien. Pour le sujet qui nous occupe, on restreint l'amitié, l'apostolat. Là aussi, nous voyons l'attitude de Jésus. Comment fait-il? Comment aime-t-il les apôtres, les pauvres personnes qui s'approchent de lui, que ce soit la Madeleine, la Samaritaine, que ce soit le centurion, que ce soit la veuve de Naïm, peu importe l'exemple de Joseph. On dit, si tout chrétien doit être un Christ qui passe, on peut très bien imaginer Joseph en train de vivre, parce qu'il a vécu pendant, je sais pas, 18, 20, 25, 30 ans auprès de Jésus. Et Joseph est le Christ qui passe. Il s'est identifié avec le divin fils, et il lui a appris des choses, mais il a appris tellement de choses de lui. Et nous sommes donc invités à imiter le Christ qui passe, mais nous disons qu'il tient beaucoup de choses de Saint Joseph. Peu importe. En tout cas, une réalité constante dans la vie de Jésus, c'est cet amour, cette amitié, parce que tout se fonde sur l'amitié. Et c'est sur ce mot-là que nous voulions atterrir, j'allais dire, après ces longues discussions. Enfin, imiter le Christ qui aime, imiter le Christ qui s'intéresse aux autres, le Christ qui fait du bien, et vouloir nous identifier au Christ, et vouloir être le Christ, surtout dans cet amour qui est la loi fondamentale de notre religion. Et le Christ aime, et le Christ aime ses amis, et le Christ s'adapte à chacun. Lorsqu'on compare, en contemplant l'Évangile, la fréquentation de la Samaritaine, lorsqu'on voit le dialogue avec Nicodème, n'est-ce pas, ce pharisien important qui sera fidèle à l'heure de la vérité, lorsqu'on voit Jésus avec Zachée, ce publicain, c'est très varié, celui qui a eu la joie de le recevoir chez lui, lorsqu'on voit le jeune homme riche, Jésus l'aima. Celui qui laisse bêtement passer sa chance, c'est sa faute à lui. C'est toujours notre faute à nous si nous n'acceptons pas, n'accueillons pas l'amitié que Dieu nous donne, que Dieu nous offre toujours, dont nous devons vivre, que nous devons transmettre aux autres. C'est notre sujet. Les disciples d'Emmaüs, après la résurrection, sont sauvés par lui, n'est-ce pas? Bien. L'exemple du Christ entraîne toujours, et toute la prédication de Jésus est axée, n'est-ce pas, sur cet amour. Et toute notre prédication est axée aussi sur lui, parce que nous contemplons aujourd'hui notamment le Christ comme ami, le Christ comme modèle de toute amitié. On disait de lui qu'il était l'ami des publicains et des pécheurs, et c'est un aspect capital du rôle apostolique du chrétien, un autre Christ. Et c'est un aspect encore plus fondamental pour les fidèles laïcs, d'être l'ami des publicains et des pécheurs. Et en disant ça, c'est que les gens qui contemplaient la vie de Jésus, eh bien, ils étaient sensibles à son sens de l'amitié, même si c'était pour la critiquer, mais ils observaient des choses justes. Jésus aime tout le monde, même ceux qu'ils ne devraient pas aimer, d'après eux, les critiques. Saint José Maria propose un apostolat qui doit essentiellement se fonder sur l'amitié. Et plus exactement, il dit que l'amitié est à l'origine de tout projet apostolique. C'est à retenir, ça. Parce que s'il n'y a pas l'amitié, on est des prêcheurs, laïcs prêcheurs, on est des prédicateurs. Et ça, il y a des gens qui aiment ça. Mais en principe, ça fait partie de l'autorité qui vient liée au sacrement de l'ordre, hein, le pouvoir de prêcher avec l'aide du Seigneur. J'arrive à la phrase qui me permet de tourner ma feuille, la phrase de saint Thomas d'Aquin, pour dire, en fait amitié, l'apostolat est la plus grande manifestation d'amitié, la plus grande manifestation de charité. Le top du top de la charité, c'est l'apostolat. Le fait de parler de Dieu, de faire en sorte d'aider les gens à s'approcher de Dieu. Ça, c'est le top de la charité, c'est le top de l'amitié. Je fais une pause de 2 minutes pour vous chatouiller un petit peu en présence de Dieu, pour vous poser 2 ou 3 questions. La première question, avez-vous des amis, de vrais amis, beaucoup ou un petit nombre? Répondez au Seigneur. Sans oublier que pour répondre à cette question comme il faut considérer la réciprocité. Hein, parce que parfois on peut considérer quelqu'un, ouais, c'est mon ami, mais l'autre il dirait jamais qu'il est notre ami. La réciprocité. Il y a des signes qui ne trompent pas trop. Hein. Est-ce que c'est moi toujours qui passe les coups de fil? Est-ce que c'est toujours à sens unique? Est-ce que moi, c'est toujours moi qui adresse les vœux et qui fait le premier pas pour les vœux? L'autre, par politesse, il répondra, mais est-ce que c'est toujours moi qui fais? Est-ce qu'on a des projets ensemble? Avec les amis, on mijote des trucs, des plans, le week-end, les vacances. Si on le fait pas, il n'y a pas d'amitié. Est-ce qu'ils viennent spontanément vers nous? Est-ce qu'ils cherchent notre compagnie? Donc cette première question, avons-nous des amis, de vrais amis? Parce qu'il faut du temps, il faut se donner des moyens humains, aussi des moyens surnaturels. On y arrive. Si tu n'as pas d'amis, demande au Seigneur d'en avoir. C'est fondamental d'avoir des amis. C'était la première question. La seconde question, avons-nous le sens de l'amitié? C'est-à-dire, est-ce que nous sommes fidèles à cette amitié? C'est-à-dire, cela signifie que nous devons aimer d'un amour de bienveillance. Nous ne demandons rien. Et même si on a l'impression qu'on n'est pas payé de retour, nous sommes loyaux, nous sommes fidèles à nos amis. Même lorsque, peut-être, ont des défaillances sérieuses. Les saints ont ce sens de l'amitié, sans rancune, même s'il y a de quoi. Sans réaction humaine, critique, mauvaise. Et avec des manifestations très très concrètes, mesurables, que nous allons peut-être voir dans les minutes qui nous restent, un petit peu quand même. Tout autour d'un mot, parce que la seconde partie de notre méditation porte un titre, l'exigence divine. Il y a une exigence dans l'apostolat, dans l'amitié, dans le fait de témoigner de sa foi. Il y a une exigence. Et être ami de quelqu'un, c'est lui vouloir du bien. C'est vouloir son bien. C'est exigeant. C'est l'aider à découvrir les vrais repères et les vraies valeurs de la vie. Et l'aider à s'y conformer à ces valeurs. Donc c'est un engagement. Un ami, on le sent. Il pèse sur nos épaules. Mais parce que nous voulons être un point d'appui pour lui, qu'il puisse compter sur nous. J'ai une très belle histoire, une référence historique, que j'ai apprise en préparant ces notes il y a quelques jours. La sagesse de Lycurgue, peut-être il y en a un ou deux dans l'assistance, peut-être même pas, qui sait. C'est un législateur mythique qui a vécu au 9e siècle avant Jésus-Christ. Alors, il a laissé une constitution à Sparte. Avant de mourir, il a fait jurer à ses compatriotes de ne jamais changer cette constitution. Bien. Parmi les dispositions, il y en a pas mal, j'en retiens une. Il avait adopté ceci, qui concernait l'armée et la guerre. Chaque guerrier devait choisir un ami parmi ses compagnons d'armes. Tous deux devaient marcher ensemble à la bataille et veiller l'un sur l'autre, en s'exhortant mutuellement pour le plus grand bien de la patrie. Et si l'un des deux tombait sur le champ de bataille, l'autre devait protéger son cadavre et le rendre à la terre de ses ancêtres. Tout ça, magnifique. Existe-t-il un indice pour répondre à la question « Suis-je un vrai ami de mes amis ?» Nous avons donné, en citant saint Thomas d'Aquin, la clé. Enfin, cette petite anecdote qui est saisissante pour nous, qui nous dit être disposé à aller jusqu'à la mort. Je ne quitte pas et je l'accompagne, et on se bat. Là, c'est une amitié. Saint Thomas nous a donné la réponse pour qu'on ne peut pas parler de tout, et puis on voulait parler d'apostolat, mais fondé sur l'amitié. Donc, s'interroger sur l'amitié est toujours utile à tout point de vue. Mais là, pour dire, je voudrais non seulement être ami de mes amis, mais je voudrais, n'est-ce pas, atteindre le sommet de l'amitié avec mes amis. Donc, les projets apostoliques, les démarches concrètes. Moi, avec un ami, mon premier souci, n'est-ce pas, c'est de l'aider dans sa vie spirituelle, c'est-à-dire dans sa vie tout court. Parce qu'on à propos de Saint Joseph et de cette justesse, cette justice dans la vie de Saint Joseph, nous avons dit tout se tient. La vie intérieure rejaillit sur la vie extérieure. Donc la vie intérieure, lorsque j'approche un de mes amis de Dieu, lorsque j'essaye de l'aider à s'approcher de Dieu, je suis en train de l'aider dans sa vie tout court. Je l'aide vraiment, lui, sa personne tout entière. Et pas qu'une facette. Prendre un pot avec un copain, c'est pas une amitié, même si j'en prends tous les jours. C'est pas forcément une amitié. C'est aller se contenter, s'hydrater un petit peu ou chauffer un peu les... Bien. Le juste vue de la foi, le juste vie de la foi. La foi ne nous permet pas de mettre en veilleuse le côté spirituel de la vie. Moi, je suis ami de mes amis, et je suis croyant avec mes amis, et j'ai la foi qui imprègne mes rapports avec tout le monde, avec mes amis aussi. Et ma fréquentation des autres personnes, que j'appelle parfois mes amis, ne peut pas se contenter à une fréquentation purement humaine, d'être à l'aise avec quelqu'un. Oui, on est amis parce qu'on est copains. Non, c'est pas, on est bien au-delà. Bien que ça soit pas illégitime d'avoir des copains. Mais ça, c'est un niveau trop humain. Là, nous parlons de la foi, de l'apostolat, du témoignage, la foi qui nous amène à penser à leur âme, c'est-à-dire à leur vrai bonheur. Et nous sommes invités à tirer toutes les conséquences de ces liens d'amitié qui nous unissent à nos amis. Cela ne peut se faire sans l'exigence. Comme dans le cas du Christ, notre ami, à notre égard, il nous a aimés et il nous a aimés jusqu'au bout. Il a été le compagnon qui s'est battu, qui a donné sa vie pour nous, qui a versé son sang pour nous sauver la vie. C'est lui qui a donné sa vie pour moi. C'est lui qui me ramène au paradis. Lui, il m'a tout donné, il m'a aimé le premier. Il m'a fait preuve de son amitié. Donc ça, je dois le dire autour de moi. Qu'aimer le Christ, vivre la loi du Christ, vivre la foi du Christ, qu'être catholique, qu'être chrétien pratiquant, eh bien c'est l'affaire de notre vie. Mais c'est exigeant pour nous, et il faut les prévenir, c'est exigeant pour toi. Et un engagement, c'est exigeant, parce que c'est un engagement d'amour, et que l'amour est très exigeant, oui. Nous avons des amis qui sont dans des situations personnelles très différentes. Commençons par bien les connaître, avec tact, avec adresse, mais avec détermination, et tenons compte de ce que nous connaissons sur eux, dans notre amitié, tout en sachant être exigeant. Nous avons des amis qui n'ont peut-être pas de gros problèmes, mais qui sont tièdes. Il faut essayer de les dépanner. Des amis qui ont des problèmes personnels, quelques problèmes personnels, qui ont abandonné la pratique, etc. Nous devons nous sentir poussés à les aider, même si ça nous complique la vie, bien sûr. Il y a ceux qui se trouvent dans une situation particulière par rapport à la foi. Situation, je sais pas quoi, mettons le qualificatif que l'on voudra, peu importe. Dans tous les cas, nous savons que si nous sentons qu'ils peuvent être plus près du Seigneur, souvent il y aura de l'ignorance. Et donc notre apostolat, le premier, ça sera souvent de leur apporter des éléments pour nourrir leur intelligence, leur formation, un cercle, une causerie, une récollection comme celle-ci, un cours de formation, un cours de doctrine. Parce que vous avez beaucoup d'amis qui sont, ou des amis parmi vos amis, qui ont des idées confuses de nos jours. On entend dire des choses parfois dans des endroits où ça devrait être très lumineux et très clair et très solide. Et c'est vraiment, ça ne tient pas, même dans certains endroits que je n'ai pas besoin de dire. L'ignorance à tous les niveaux. Peut-être que nous pouvons les aider si nous avons une idée claire sur un sujet, leur donner un conseil, leur faire connaître la doctrine, lui dire, tiens, ce livre, je l'ai lu, c'est vraiment, il m'a fait beaucoup de bien, lis-le si tu veux. Et là, on s'adapte avec ce don de langue, comme le Christ l'a fait vis-à-vis de Zachée, Nicodème, la Samaritaine, enfin, tous les exemples. Le Christ, comment il s'y prend? Je suis le Christ, tu es le Christ, plein de la vie du Christ en toi. Tu es le Christ qui passe le long des chemins qui sont les tiens et qui sont pas les miens. Que tu franchis, que tu longes, pas moi. Je serai jamais sur ton chemin professionnel, sur ton endroit de travail. Toi, tu y es, pas moi. Donc c'est à toi de faire ce boulot. Tu dois être le Christ et tu dois, sans prêcher, et si tu veux prêcher, c'est ta liberté, tu fais ce que tu veux, mais de témoigner, de l'encourager, lui présenter un prêtre, lui parler des sacrements, de la vie de prière, que sais-je. Mais ton amitié pour cette personne-là doit te pousser à te remuer le derrière pour l'aider, même si tu rougis parfois. Des occasions se présentent tout le temps, à nous tous. J'allais vous dire, hier soir, j'ai parlé pendant 10 minutes avec une voyante. Je parlais de Dieu, de la médaille miraculeuse. Oui, des trucs qui peuvent arriver comme ça. Je me suis retrouvé dans une petite brasserie où la plupart des clients, c'était des clientes, et qui passaient à tour de rôle voir la voyante qui était là, dans un coin. Et puis je suis passé moi aussi, pas pour me faire expertiser. Mais pour dire, écoute, oui, je suis prête, moi. C'est à une heure mensuelle de voyance dans cette brasserie. Moi, je pourrais proposer une heure de confession aussi, une soirée confession. Enfin, on a rigolé, mais bon. N'empêche que la voyante, elle va à la médaille miraculeuse plonger sa chaîne et tout ça, d'eau bénite. Est-ce que c'est un péché, mon père? Non, non, en fait, c'est très bien, voilà. Qu'est-ce que je veux dire, moi? À la voyante. Bon, je sais pas pourquoi je vous dis ça. Ah oui, les endroits où l'on est, où on n'est pas. Quoi. Mais je fréquente pas beaucoup les brasseries le soir, donc. Mais on voit qu'il y a de la vie. Hein. Il y a de la. Hein. Il y a un certain mouvement, une certaine agitation nocturne à Paris. Bien. La conclusion de notre seconde méditation. Relancer notre travail apostolique, relancer notre amitié. Et puis ne pas hésiter, n'est-ce pas, à c'est pas quoi, à se fixer des objectifs là. Est-ce que j'ai besoin, moi, de la base, d'aller à la base? J'ai besoin de renforcer l'amitié avec ceux qui sont déjà mes amis, les fréquenter un petit peu plus pour pouvoir aller un peu plus loin dans mes échanges avec eux. Mais ça serait une merveilleuse résolution apostolique. Est-ce que c'est que j'ai besoin d'élargir le cercle de mes amis, de mes connaissances, de mes collègues, faire un nouveau pas pour... Mais très bien. Est-ce que je dois passer à la confidence avec mes amis? Je ne vais pas aller que j'échange avec eux dans tous les domaines, la foi y compris. Est-ce que c'est ça qui me manque? Est-ce que je dois leur proposer peut-être un moyen de formation? Tiens, viens, la prochaine récollection, si tu veux, je t'invite, on y va ensemble. Ou d'autres choses. Le tout, bien évidemment, accompagné, ça fait partie de l'exigence Le tout accompagné de notre prière et de nos petits sacrifices. En carême, n'est-ce pas, ça coule de source. Mais tout le temps, petite prière, petit sacrifice pour tel ami, nommément. Parce que je l'aime, parce que c'est mon ami, parce que je veux qu'il progresse. Eh bien, et je vais poser des actes concrets. Sinon, il n'y a pas d'amitié. Si on n'a pas des projets communs, il n'y a pas d'amitié. Bien. Nous confions tout cela à Saint Joseph, bien sûr, à notre mère, bien évidemment. Nous leur confions les deux sujets de notre récollection, notre vie intérieure et notre zèle apostolique.